Le deuxième jour, après le déjeuner à la taverne Imar à Kavala, nous continuons vers Thessalonique. Nous débutons la visite de la ville avec les églises de Saint-Dimitrios et Sainte-Sophie.
Il y a encore dans la ville de Thessalonique assez de ces monuments. C'est l'histoire de la ville. En 1912, le roi Constantin, avec les soldats grecs, sont arrivés ici et ils ont libéré la ville. Le 26 d'octobre, c'est la fête de Saint-Dimitrios. Le même moment, les Bulgares sont arrivés 30 km ici dehors la ville de Thessalonique. Ils voulaient aussi libérer la ville de Thessalonique. Mais il était les Grecs qui sont arrivés plus tôt. À partir alors de 1912, Thessalonique, c'est une ville de la Grèce, ici au nord de la Grèce, c'est un port. Se trouve devant le golfe Thermaïque, comme on a vu hier. Nous avons un grand port commerçant, ce n'est pas touristique. Il n'y a pas de ferry, ni de bateaux de croisière qui arrivent jusqu'ici. Nous sommes dehors l'itinéraire de grands bateaux de croisière qui font une croisière dans la mer Égée. Mais c'est très important comme port commerçant pour toute la péninsule balkanique, pas seulement pour la Grèce. Comme je vous ai déjà dit, Thessalonique, c'est la plus belle ville du monde. Se trouve près de la mer. Derrière la ville, nous avons les collines, l'acropole sur le point plus haut et la tour blanche, c'est le symbole de la ville, un morceau de rempart, un tour circulaire qui reste encore là comme musée historique de Thessalonique. Nous, aujourd'hui, en arrivant dans le centre, on va visiter les deux plus grandes églises. Les églises orthodoxes. 97% des Grecs, nous sommes chrétiens, mais nous sommes orthodoxes. Et les églises, plusieurs des églises que vous voyez partout sont des églises orthodoxes. Il y a aussi des catholiques en Grèce. Si je me rappelle bien, 200 000 sont les orthodoxes, les catholiques. 40 000 sont grecs catholiques. Les 40 000 de 200 sont grecs catholiques. Pendant la période vénitienne, cette époque-là, il y avait de grecs qui étaient catholiques. On trouve les plusieurs de ces grecs catholiques à Athènes et aussi dans les îles de Cyclades, Mykonos, Santorin, Syros et Tinos. Athinos est la plus grande communauté catholique de la Grèce. Il y a beaucoup d'autres catholiques qui sont étrangers qui vivent en Grèce. Il y a aussi de mariages mixtes, hein, c'est pour ça qu'il y en a plus. Et je parlais ce matin aussi pour les musulmans de la région de Thrace. En 1912-13, les Grecs ont libéré la part nord de la Grèce, Macédoine et Thrace. Et en 1922-23, le gouvernement grec et le gouvernement turc ont décidé qu'il faut changer la population. Tous les Grecs qui étaient en Turquie, ils devaient venir en Grèce. Et tous les Turcs qui étaient encore en Grèce, ils devaient aller en Turquie. Plus de 1 million de Grecs, ils devaient venir en Grèce. Plus de 300 000 Turcs étaient obligés de passer de l'autre côté de la mer Égée. Sauf les Grecs de Constantinople, où il y a encore une communauté orthodoxe, et le patriarche de Constantinople. Ils sont citoyens turcs, mais ils sont orthodoxes. Et sauf les musulmans, les turcs de la région de Thrace, ici en Grèce. C'est pour ça que là-haut, au nord-est, dans la région de Thrace, il y a des musulmans. Ils sont les Turcs, ils sont restés en Grèce. Ils sont des citoyens grecs, passeport, carte d'identité grecque, mais ils sont musulmans. Et si nous allons là-haut en Thrace, on trouve très souvent les villages où il n'y a que la mosquée. Il y a des villages un peu plus grands où on peut voir la mosquée, et de l'autre côté, c'est aussi l'église orthodoxe. Ils coexistent, les orthodoxes et les musulmans. Dans la région d'Athènes, dans l'Attique, il y a, les dernières années, assez de musulmans, mais il n'y a pas de mosquée. Et quelquefois, ils me demandent s'il y a des musulmans en Thessalonique. Bon, jusqu'à avant des années, je disais non. Mais maintenant, il y a des musulmans. Ce sont les musulmans qui sont arrivés les derniers 2-3 ans, pas plus, de Syrie. Ou Iran, Irak, par là, les plusieurs sont de Syrie. Au centre de la ville, je crois, que vous verrez peut-être de musulmans. Mais il n'y a pas de mosquée. Comme d'habitude, ils ont loué quelques appartements au centre de la ville pour leurs prières. Ici, nous sommes 12 kilomètres avant le centre de la ville. Et ici, les archéologues ont trouvé un cimetière macédonien. Ils ont trouvé des tumulus 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des tumulus, vous connaissez le mot, de petites collines artificielles. Au-dessous, il y avait, comme d'habitude, quelques tombeaux. Les tombeaux de riches, de personnes importantes de la région. Ici, par exemple, à droite, vous voyez la petite colline. Au-dessous, il y a un tombeau de Macédonienne. Et à droite, ils ont fouillé aussi, vous verrez quelques toits.
Alors évidemment, pour nous, Thessalonique évoque les lettres de Paul aux chrétiens de Thessalonique, mais peut-être un autre souvenir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent du père Jean Ameslan ?
Oui.
Voilà. Jean Ameslan m'avait dit un jour que pour lui, l'air d'Estelle de la Mave venait de Thessalonique. Et il était persuadé que c'était des soldats de chez nous, du coin, qui étaient venus ici, à Thessalonique, et qui avaient ramené cette mélodie. Voilà, alors peut-être que demain matin, on chantera Estelle de la Mave, lorsqu'on sera dans la petite église catholique, et on le fera aussi en mémoire de Jean, voilà, qui a été un homme remarquable. Bon, le souvenir, évidemment, pour nous d'ici, c'est la visite de Paul. On verra dans les Actes des Apôtres comment Luc évoque la visite de Paul, la venue de Paul à Thessalonique. C'est une venue qui va être interrompue là aussi par cette fameuse contre-mission. Donc on va chasser Paul de Thessalonique. Il y restera très peu. Il n'aura pas manifestement le temps de former cette communauté chrétienne, cette petite communauté chrétienne, et il s'en inquiétera. Ce sera pour lui un souci qui le conduira jusqu'à ce qu'il arrive à Corinthe. Entre-temps, on lira cela demain, on verra qu'il enverra Timothée, une fois qu'il aura dû quitter cette ville, il enverra Timothée pour voir si la communauté de Thessalonique a bien résisté, voilà, aux persécutions et a bien résisté, voilà, aux difficultés qui se sont abattues sur elle. Il apprendra qu'elle a bien persévéré, cette communauté, bien que jeune, bien que pas totalement formée, a gardé la foi. Elle a gardé la foi malgré les épreuves, malgré les persécutions. Et c'est dans ce cadre-là que Paul enverra la première lettre aux Thessaloniciens. Il l'écrira depuis Corinthe, donc où nous irons dans quelques jours. Et c'est le plus ancien écrit chrétien. Voilà, c'est la plus ancienne lettre. C'est une lettre marquée par l'action de grâce. Je dirais d'une certaine manière que Paul est fou de joie parce que cette communauté chrétienne a tenu bon.
La ville de Thessalonique, maintenant, c'est une ville moderne, avec tous les problèmes d'une ville moderne, comme le trafic, l'embouteillage, qu'il y en a toujours, comme le parking, qu'il n'y a jamais, près de l'église de Saint-Dimitrios. Ce n'est pas la cathédrale, mais c'est l'église plus importante, plus grande et plus importante pour les Thessaloniciens. Parce que, comme j'ai expliqué, Saint-Dimitrios, c'est le saint protecteur de la ville, parce que le 26 d'octobre, c'est la libération de la ville. On va commencer par là. L'hôtel Olympia, où vous resterez pendant une nuit, c'est bien situé au centre de la ville, juste près de Forum Romaine, là où ils ont commencé à travailler pour la construction du tribunal de Thessalonique en 1963. Mais en fouillant pour cette nouvelle construction, ils ont trouvé les ruines de Forum Romaine. Alors ça reste comme un site archéologique. Et en descendant par là, vous pouvez arriver jusqu'au bord de la mer où est la place d'Aristote. Vous entendrez très souvent à Thessalonique le nom d'Aristote. Aristote était un philosophe très connu. Aristote était de Stagyre, une petite ville 100 km dehors de Thessalonique, dans la région de Chalcidique, au nord de Mont Athos, de la péninsule de Mont Athos. Quand il avait 9 ans, il n'avait plus de parents et il est allé à Athènes pour faire des études près de Platon, un autre fameux philosophe. Il restait là pendant 20 ans avec lui, et après la mort de Platon, c'est Philippe II qui l'a invité ici à Macédoine. Il a créé une école pour Alexandre le Grand et ses amis à Myésa, et là, Alexandre restait avec Aristote. Il avait une très bonne éducation près d'Aristote. Plus tard, Aristote est allé à Athènes, il a créé une autre école là, et il était mort une année après la mort d'Alexandre le Grand, 322 avant Jésus-Christ. La place principale alors de la ville ici a le nom d'Aristote, c'est la place d'Aristote, et se trouve près de la mer. L'université de Thessalonique, on l'appelle l'université d'Aristote aussi. À partir de 1927, nous avons l'université. Dans la ville, on utilise les taxis. À gauche, vous voyez avec la couleur bleue et blanche. Les bus, les autobus locaux. Il n'y a pas de métro, pas encore. On va voir dans le centre de la ville, ils ont commencé, ils travaillent encore, ils ont commencé en 2007. Les travaux pour le métro. Et il disait que en 2012, quand Thessalonique célébrait 100 ans de la libération, le métro sera prêt. Maintenant, c'est 2019 et encore on attend. C'est vrai que c'est très difficile le travail qu'ils font les archéologues, parce que dans une profondeur de 3-5 mètres maximum, ils ont trouvé un grand morceau de la vieille ville de Thessalonique, de la période byzantine et romaine. Alors, on attend encore. Je ne sais pas si vraiment on a besoin de métro. Peut-être ça aide la circulation dans la ville, mais les distances ne sont pas énormes, très longues comme à Athènes. On peut marcher facilement jusqu'au centre de la ville. L'église de Saint-Dimitrios se trouve sur les ruines d'un bain romain, d'une construction de la période romaine. J'ai déjà dit que le forum, ce n'est pas très loin.
Et ici était le bain romain, un grand bâtiment, un grand complexe avec les piscines, avec les salles pour les banquets, avec un grand bâtiment public. À la fin du 3e, début du 4e siècle, c'est la période où les gouverneurs de Thessalonique, c'est Galerios, Galère. Il était un empereur romain ici, dans cette région. Et c'est celui qui a décidé de mettre dans la prison Dimitrios. Dimitrios était un citoyen romain, il était jeune, mais il était chrétien. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la prison. Et ils ont utilisé comme prison pour lui le bain romain. Un peu plus tard, il a martyrisé avec les lances de soldats romains. Et c'est pour ça que très souvent on trouve Saint Dimitrios. Vous savez que Saint Georges, c'est sur un cheval blanc et il est prêt d'assassiner quoi ? Les dragons. On trouve aussi Saint Dimitrios sur un cheval noir ou marron, plus obscur, et il est prêt d'assassiner un soldat romain. Demain, dans le musée byzantin de Thessalonique, on va voir ça. Alors, après le martyrium de Saint Dimitrios, c'est encore trop tôt, les chrétiens n'ont pas le droit de construire une église, ils ont fait juste un petit monument consacré à lui. Et beaucoup plus tard, le 5e siècle, ils ont commencé la construction des grandes églises. C'est une des plus grandes églises de la Grèce. C'est la plus grande de Thessalonique. La plus grande église en Grèce, c'est l'église de Saint-André à Patras. Ils disent que c'est pour 9000 personnes. Je ne suis pas sûre, mais c'est énorme. Ici, la longueur, c'est 48 mètres. Et c'est une basilique à 5 nefs. Alors, au début, ils ont construit une grande église. Deux fois, quelques incendies ont détruit l'église. La première fois était en 620 et la deuxième fois en 1917. C'était un grand incendie qui a provoqué une grande catastrophe dans la ville, mais grâce à cet incendie, il a changé aussi la ville. Il a changé beaucoup. Après l'incendie, ils ont abandonné pour une période l'église. Et après la Deuxième Guerre mondiale, 1947-49, archéologues et architectes de l'Université de Thessalonique, ils ont travaillé pour reconstituer l'église. Ils ont utilisé beaucoup d'éléments de l'église ancienne. Il faut dire qu'après l'incendie, restaient les murs à droite et à gauche, quelques colonnes, l'abside que vous voyez derrière moi au fond, pas la décoration, seulement la construction, et il n'y avait rien de toit qui était en bois. Alors, ils ont fait la reconstitution et nous avons l'église que vous voyez. Qu'est-ce qu'il reste ? À droite pour vous, la première et la troisième colonne sont les colonnes de l'église, de la vieille église. La deuxième, c'est une autre colonne nouvelle, mais ils ont utilisé le même arbre et ils ont fait la même décoration pour les chapiteaux. La même chose pour les colonnes vertes à gauche. La première et la quatrième sont originelles. Les autres deux sont nouvelles. Cette église était une église grande, importante. Ils ont payé assez d'argent. Lucas Panzounis, c'est le nom d'un citoyen de Thessalonique qui a payé assez d'argent à cette époque-là pour cette église. Le sarcophage que vous voyez là-haut, c'est de Lucas Panzounis qui reste encore là. L'église était décorée avec des mosaïques derrière la première colonne, derrière l'arc. Vous pouvez voir un morceau de mosaïque. Il y a aussi un autre morceau près du rideau de l'autre côté. Nous avons les traces, nous avons les fragments de quelques mosaïques. Nous avons aussi quelques fresques. Vous voyez ici, ça avec les petits trous, parce que pendant une grande période de plus de 4 siècles, cette église a été transformée en une mosquée. Les Ottomans ne voudraient pas voir toutes ces figures chrétiennes. Ils ont martelé alors les fresques, ils ont mis un enduit et les dernières années, les archéologues ils peuvent nettoyer et ils trouvent ça que vous voyez. Le mur sur les arcs était couvert avec les plaques de marbre. Le marbre qui manque de la région de Macédoine centrale où nous sommes maintenant. On a quitté Macédoine d'Est. où était la montagne Pangeo et Tassos avec le marbre. Dans cette région, il n'y a pas de marbre. Le marbre, ça vient d'autres régions, mais ils l'ont utilisé pour décorer cette grande église. Il y a deux balcons, comme vous voyez. Ça, on l'appelle gynekonitis. Gynèque, c'est la femme. Dans l'église, nous sommes les femmes et les hommes, comme d'habitude séparés. Les hommes restent à droite et les femmes à gauche. Et aussi, quand il y a beaucoup de monde, quand nous avons des enfants, ils font des bruits, on peut monter aussi là-haut. Mais ce n'est pas que nous sommes obligés, comme dans la mosquée, dans la synagogue, de rester derrière en haut les femmes. Les femmes, comme dans l'église catholique, sont dans la salle principale. Bon. Vers à l'est maintenant, nous avons l'abside. La décoration que vous voyez, c'est récente, après la restauration. Nous avons la Vierge sur le tronc avec le bébé. Et à droite et à gauche, vous voyez les deux archanges. Ça, c'est une fresque. Ce n'est pas de mosaïque. Et vous voyez aussi le temple, l'iconostase. Ça, c'est une église paléochrétienne, 5e siècle. C'est pour ça que l'iconostase, c'est assez bas. Derrière l'iconostase, derrière la porte principale, se trouve l'autel. Et pendant la cérémonie, la porte est ouverte. Les églises orthodoxes sont décorées avec les icônes. Vous pouvez voir là-haut, sur le mur, au coin, c'est pas bien illuminé, mais je crois que c'est clair qu'il y a un autre morceau d'une mosaïque qui manque. Il faut imaginer que tous ces murs là-haut étaient décorés avec une mosaïque. C'est Saint Dimitrios en bas et c'est l'ange qui arrive par le ciel. Regardez alors cette grande icône. C'est récente. Nous avons une présentation de tous les saints locaux. En commençant ici au milieu par Saint Paul. Vous voyez le visage, les caractéristiques qu'on a vues ce matin dans le baptistère de Saint-Lydie. Juste à côté, Saint-Dimitrios. Il le présente toujours jeune. Et ils ont ensemble l'église de Saint-Dimitrios où nous sommes. Beaucoup d'autres saints. Ce n'est pas besoin de trouver quelqu'un. C'est clair, c'est facile pour nous de lire. Chaque fois sur l'icône, il écrit le nom de saints qui présent, Cyril et Méthode. Deux frères, 10e siècle après Jésus-Christ, ils sont commencés de Thessalonique pour évangéliser les Slaves au nord de la péninsule balkanique. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils portent. Il était un moine, on peut comprendre ça par les vêtements. Et l'autre, Saint Méthode, était un évêque. Alors, ils sont montés plus au nord, et plus tard, ils ont organisé l'alphabet cyrillique, qu'ils utilisent encore en Russie, en Serbie, en Bulgarie. L'alphabet cyrillique, ils utilisent beaucoup de lettres de l'alphabet grec. Pendant la période vénitienne, 13e siècle, les Vénitiens, avant leur départ de Thessalonique, ils ont pris avec eux le relique de Saint Dimitrios. Ils ont gardé ce relique au nord de l'Italie, dans un petit village. Et en 1980, le pape, le Vatican, ils ont offert un cadeau à Thessalonique, le relique de Saint Dimitrios. On a fait la chapelle en marbre que vous voyez ici. Et vous pouvez traverser, si vous voulez, pour voir quoi? Le sarcophage en argent, ce n'est pas visible, ça qui reste. Mais nous avons ça qui reste de corps de Saint Dimitrios. On dit en grec « ikara tou Agiou Dimitriou », ça signifie qu'il y a un morceau de crâne. Quand vous êtes ici, vous pouvez voir juste en face le martyr de Saint Dimitrios par les lances de soldats romains. Et en passant ici, vous verrez sur les petites portes les ex-voto. Il y a des ex-voto pour demander l'aide de Dieu ou pour remercier. Vous verrez un bras, une femme, un bébé, un cœur, une oreille. Ça dépend des problèmes. Quelquefois, vous verrez deux couronnes. C'est le symbole pour le mariage. Et aussi le mot « Ephraristo ». Merci. « Vous savez, dans l'église orthodoxe, on célèbre la messe dimanche matin. Il commence à 7h, 7h30 le matin jusqu'à 10h, 10h30. 3h. Vous avez de la chance, hein, vous? Ouais. Moi, je trouve que c'est pas trop pratique. Le rythme a changé, de la vie a changé. Nous ne pouvons pas rester pendant 3h. Quand nous avons des enfants, on arrive à le dernier 30 minutes, 45 minutes. Mes enfants ne peuvent pas rester plus dans l'église. Et le matin, il y a moins de monde. Les plus âgés qui ne peuvent pas dormir beaucoup. Un peu plus tard, plus de monde. Vous m'avez demandé s'il y a assez de pratiquants dans les églises orthodoxes. Et je crois que oui, si vous venez ici dimanche matin, c'est plein de monde. Et pas seulement ici. Dans les villages aussi. Et pour nous, c'est pas simplement la religion. L'orthodoxie, c'est une tradition. Et peut-être nous n'allons pas chaque dimanche matin à l'église, mais en passant dehors, on entre pour allumer une petite cierge, pour embrasser les icônes, pour faire une prière. Et après, on continue notre travail. Nous avons la communion, mais à la fin de la cérémonie de la messe, c'est le prêtre qui va donner la communion. Mais comment ? On utilise le calice et là, le prêtre va mettre le vin rouge doux, sucré, toujours, pas d'autre. Et là, dedans, il va mettre aussi du pain. Et avec la cuillère, il va prendre une petite quantité pour donner avec le même cuillère la communion à tous les fidèles. Au début, aux enfants, après aux hommes et finalement aux femmes. Ça, c'est une coutume qu'on fait encore. C'est bizarre pour vous, je sais bien. Si vous restez dans l'église pendant la cérémonie, vous verrez exactement ça. Quelle est la différence entre l'église orthodoxe et l'église catholique? Vous savez? Nous avons des différences? Comment? L'autorité du pape. C'est tout? On peut trouver une solution. Les filioque, voilà. Ça, c'est la différence. Je vais répéter. Alors, vous savez peut-être que les chrétiens étaient tout ensemble jusqu'au XIe siècle. Et quand on dit l'église de Sainte-Sophie était une église chrétienne, il n'y a pas une séparation encore. Ce sont les chrétiens tout ensemble, ou la période paléochrétienne, les basiliques qu'on trouve dans les sites archéologiques. XIe siècle, nous avons la séparation. Nous avons le filioque. Cette époque-là, je crois que le problème était qui sera le chef de l'Église, le patriarche à Constantinople ou le pape à Rome. Il n'y a pas de grande différence, selon moi, dans les deux Églises. Le filioque signifie « est le Fils ». Les catholiques, vous croyez que le Saint-Esprit se procède par le Père et le Fils. Et les orthodoxes disent que le Saint-Esprit, ça vient seulement par le Père. Pour le Fils, il ne dit rien. Heureusement pour nous, les dernières années, les relations entre les deux églises sont beaucoup mieux qu'avant, avec le pape, avec le patriarche. Et pourquoi pas? Avec tous ces problèmes qu'il y a tout autour, je crois que les chrétiens, il faut être tout ensemble. Il n'y a pas de grande importance, c'est pour ça que dans l'église orthodoxe, il accepte le mariage avec un catholique. Il n'accepte pas les musulmans, ni les protestants, ni les juifs. Dans l'église catholique aussi, vous pouvez faire le mariage avec un orthodoxe. Exactement pour ça, parce qu'il n'y a pas de grande différence.
Qui a imposé le filioque au monde latin?
C'est pas un concile.
Non, ce n'est pas un concile, c'est Charlemagne. C'est Charlemagne pour essayer d'unifier un petit peu. Bon, il n'y avait aucune raison d'invoquer le filioque. Normalement, il y avait le concile de Nicée avec lequel toute l'Église était mise d'accord. Il y aura ensuite le concile chalcédoine, mais il n'y avait aucun problème. C'est Charlemagne. Voilà, pour unifier l'Empire romain qui s'est servi, et là je vous rejoins, Léna, qui s'est servi d'un élément qui n'est pas tout à fait théologique. Alors aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il y a eu entre chrétiens, entre catholiques et orthodoxes, sur la question du filioque, il y a eu des rapprochements et des accords. Et c'est vrai qu'on préfère dire que l'Esprit-Saint procède du Père par le Fils, ou dans le Fils. Voilà. Et je crois que sur cette formulation, catholiques et orthodoxes sont d'accord. Vous voyez bien, c'est une minutie, un peu, pas nécessairement d'ordre théologique, mais plutôt d'ordre politique.
Aussi d'autres différences, voilà. Ce qui concerne la Vierge, par exemple. Hein, on dit que les Grecs, les orthodoxes, on parle de la dormition. Et c'est ce que je disais quand je suis allée avec un groupe des orthodoxes à Jérusalem, on a visité le tombeau de la Vierge. Et on va voir très souvent dans les églises la dormition de la Vierge.
Sur la question de la dormition, vous avez dit avant, vous avez parlé de l'évêque, du dernier évêque ici, qui s'était endormi. Il faut savoir que dans le monde grec, y compris dans le Nouveau Testament, c'est ce que l'on utilise, l'expression qu'on utilise pour dire, pour parler de la mort, c'est « il s'est endormi ». Dans le monde, dans le texte grec du Nouveau Testament, pour dire à la résurrection, on n'emploie pas le vocabulaire de la résurrection, mais on emploie le vocabulaire soit de réveiller, soit de relever. Le vocabulaire de la résurrection est un vocabulaire latin. Et c'est Saint Jérôme qui, au IIIe siècle, pour la première fois, va utiliser ce vocabulaire de résurrection. C'est-à-dire en grec, les deux verbes grecs qu'on utilise ne veulent pas dire bien sûr qu'ils veulent dire ressusciter, mais on préfère dire on s'est endormi, il s'est endormi, il a été réveillé, relevé, comme vous voulez. Alors sur la question de la dormition, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose de tout à fait entendu, y compris par les catholiques.
Tant mieux.
Y compris par les catholiques, il n'y a pas de problème.
Tant mieux.
Voilà, il y en aurait d'autres si vous voulez.
Vous savez, l'opinion.
Je la connais. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, nous sommes très très proches avec les orthodoxes. Les questions qui nous séparent sont souvent plus des questions d'ordre politique qu'autre chose, et notamment en ce qui concerne le pape. Les églises orthodoxes reconnaissent d'une certaine manière une primauté d'ordre spirituel de l'église de Rome, ce qu'elles n'acceptent pas. N'oubliez pas, on est en Orient, l'église elle est née en Orient, elle n'est pas née chez nous, elle est née en Orient. Voilà. Et ce qu'ils n'acceptent pas, c'est de fait, c'est là. C'est ce pouvoir de juridiction qui est le pouvoir du pape. Le fait que le pape puisse intervenir dans toutes les affaires des églises de partout. Lorsque le pape, l'actuel pape François, lorsque le pape s'est présenté, vous aurez noté sans doute que ses premiers mots ont été pour dire qu'il était l'évêque de Rome. Et ses premiers mots étaient en direction de l'orthodoxie. Parce que de fait, les orthodoxes reconnaissent l'évêque de Rome et reconnaissent, d'un point de vue spirituel, voilà, la place de cet évêque. Donc, en se présentant comme évêque de Rome, ce qui a été le cas pendant 5, 6, 7 siècles, ce n'est qu'à partir du 8e siècle qu'on va rentrer dans la papolatrie. Pardonnerez, mais c'est à partir du 8e siècle. Jusqu'alors, l'évêque de Rome, il est d'abord évêque de Rome. Mais c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est ensuite l'évêque, qu'il joue ensuite un rôle par rapport aux églises de partout. Et pourquoi ? Parce que c'est à Rome que Pierre et Paul ont donné leur vie. Et on considère, c'est pour ça qu'on dit que l'église de Rome a été fondée par Pierre et Paul, c'est pas eux qui l'ont fondée. À la mesure où ils auraient annoncé l'évangile, les premiers, c'est d'autres qui l'ont fait, mais le fait qu'ils y aient versé leur sang fera qu'on reconnaîtra à cette église une autorité particulière. Voilà, je m'arrête là.
Ah, ce qui concerne on dit le pape, l'autorité du pape, mais pour les orthodoxes aussi, nous avons le patriarche. Et ce n'est pas seulement un. Le plus important pour nous, c'est le patriarche de Constantinople, parce qu'il était le premier. Mais il y a encore d'autres maintenant, à Jérusalem, à Antioche, 14. Et le pape, c'est le patriarche de Rome. Pour nous, il y a un respect, bien sûr, hein, comme vers les autres patriarches. Une autre différence, qui est les prêtres dans l'Église orthodoxe sont mariés. Il faut choisir au début s'ils veulent rester comme prêtres dans les églises simples. Ils ne veulent pas monter dans l'hiérarchie de l'Église. Ils peuvent être mariés. Comme d'habitude, ils ont des grandes familles et ils vivent dans la communauté. S'ils veulent monter, s'ils veulent être évêques, il faut rester seul, célibataire. Et une dame m'a demandé à un moment, on fait la croix avec trois doigts, la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en haut, en bas, à droite et à gauche.
Autre différence, c'est aussi que les divorcés peuvent se remarier à l'Église.
Oui.
Ouais.
Ça, c'est une grosse différence.
Oui, c'est vrai que la pratique, il y a une pratique pénitentielle. C'est-à-dire qu'on reconnaît dans l'Église orthodoxe que, bon, pour des raisons qui se justifier, on reconnaît qu'on peut, un mariage peut se terminer de manière un peu dramatique, et auquel cas on se sépare. Alors il faut faire attention. La religion, plutôt l'Église orthodoxe, prévoit qu'au bout d'un certain temps.
Trois mariages.
Oui, trois mariages.
On peut être marié trois fois dans l'Église. Oui, c'est vrai.
Mais voilà, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on peut se tromper. On reconnaît que la faiblesse humaine fait qu'on peut se tromper. On peut connaître un échec. Cet échec, il peut ne pas être nécessairement de notre fait. Et donc, après une pratique pénitentielle, on peut se remarier. C'est la pratique initiale de l'Église. J'insiste, c'est la pratique initiale de l'Église. Lorsqu'il y a eu le synode sur la famille, un cardinal, Casper, qui a une haute autorité de l'Église catholique, qui est dans un dicastère romain, a écrit un ouvrage, La joie de la famille, l'évangile de la famille, peut-être, ou La joie de la famille, dans lequel il a rappelé que la pratique ancienne de l'Église prévoyait. Bon, rappelant cela, évidemment, il le faisait de manière à éclairer la réflexion des évêques du synode. Et vous avez peut-être vu que, précisément, ce qui a valu au pape François des critiques épouvantables, le pape François a admis la possibilité qu'après discernement, on puisse permettre non pas de se remarier, mais on puisse permettre d'accéder à l'Eucharistie, on puisse permettre d'accéder au sacrement. Avec l'Église orthodoxe, nous sommes plutôt, me semble-t-il, sur une pratique traditionnelle de l'Église. Alors il y a un premier temps, c'est vous êtes baptisé, le baptême tient lieu de sacrement de réconciliation. Et après, il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est les premiers temps de l'Église avec Constantin. On est baptisé sur son lit de mort, comme ça on est sûr de ne pas commettre de péché. Et puis vous avez ensuite progressivement une pratique qui va se mettre en place, qui est une pratique publique. Voilà, la confession privée, nous, telle que nous la connaissons, nous la tenons de moines irlandais, notamment de Saint-Colomban. C'est une pratique monastique. Et c'est cette pratique monastique qui va donner lieu à ce que nous connaissons aujourd'hui. La possibilité qu'après un mariage et un échec, après une démarche pénitentielle, faisant preuve de sa foi, faisant preuve de la possibilité qu'un jour on puisse se remarier, je le dis bien, n'est pas étrangère. Cette possibilité n'est pas étrangère à la tradition de l'Église. Mais évidemment, cela supposerait pour nous, latins, des évolutions importantes, pas simplement au niveau du droit canonique, mais aussi par rapport à une dimension pastorale. Je le dis d'autant plus que aujourd'hui, vous savez cela, vous avez des personnes qui demandent le sacrement de confirmation, qui demandent le sacrement du baptême, qui ne savent pas qu'elles sont dans des situations, on va dire, irrégulières au niveau de la foi catholique, et à qui on va dire, attention, si vous vous faites baptiser, il va falloir que vous vous sépariez de votre conjoint.
Quelle horreur.
Mais oui, mais c'est ça.
Quelle horreur.
Mais c'est ça, il faut le savoir. Ou pareil pour le sacrement de confirmation. Non, vous ne pouvez pas être confirmé, mais ces personnes ne le savent pas. Bon, c'est ce qui me fait espérer un jour, d'un point de vue pastoral, que l'on puisse évoluer, peut-être en s'inspirant de la pratique des orthodoxes. Si certains de nos frères et sœurs, chrétiens comme nous, ont une pratique pénitentielle différente de la nôtre, peut-être au vu des conditions culturelles qui sont les nôtres et des évolutions de société qui sont les nôtres, peut-être pourrions-nous nous inspirer d'eux. Je le souhaite.
Est-ce que les orthodoxes ne peuvent pas se marier avec les protestants? Ils peuvent le faire en faisant un mariage civil, pas dans l'église.
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les protestants ne reconnaissent pas le mariage comme un sacrement. Catholiques et orthodoxes, nous connaissons la valeur sacramentelle du mariage. Pour les protestants, le sacrement n'a pas de valeur sacramentelle. Nous estimons que c'est possible. Normalement, il y a des règles bien précises, mais on les oublie parfois. Sur ce point-là, les orthodoxes sont plus rigoureux que nous. Ils disent non. Voilà, eux ne considèrent pas le mariage comme un sacrement. On ne va pas donc célébrer de sacrement entre un catholique et un protestant. Nous considérons que, de fait, si le catholique est bien catholique et s'il vit sa foi, on peut considérer que finalement il peut aussi se marier avec quelqu'un qui ne l'est pas. Il peut être protestant, vous avez parfois aussi la possibilité. Il faut demander des dispenses, il faut demander, mais on peut aussi se marier avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ce n'est pas le cas chez les orthodoxes, qui sont plus rigoureux à ce niveau-là.
Moi, je pense une autre chose, que les protestants, ils sont par les catholiques. Là, il y avait une bataille par les catholiques, nous avons un peu plus tard, les protestants peut-être sont plus prêts aux catholiques. Et les orthodoxes ne les acceptent pas.
Ah, parce que les protestants sont plus près des catholiques.
Non,
je ne pense pas. Non, je ne pense pas.
Dites-moi.
Pardon ?
Par l'État.
Par l'État.
L'Église orthodoxe en Grèce, c'est le même corps avec l'État. Parce que pendant la période ottomane, l'Église a aidé beaucoup la nation grecque. Après 4-5 siècles de l'occupation turque, nous sommes encore chrétiens. Nous ne sommes pas musulmans. Et on parle la langue grecque, parce que cette époque-là, il organisait les prêtres, les professeurs, des écoles secrètes, comme on dit, sur les montagnes, dans les villages, dans les petites chapelles. Ils célébraient la messe. Et on a gardé notre religion.
Et identité.
Voilà. Et maintenant, après tout ça, l'État grec soutient l'Église orthodoxe. Les prêtres sont employés de l'État grec. Et la dernière année avec M. Tsipras, il veut séparer l'État par l'Église, mais s'il va faire ça, je crois qu'il va, il ne peut pas gagner les prochaines élections. Il a fait des efforts, mais pour nous, c'est une tradition. Comme aussi, je dis à quelqu'un qu'en Grèce, nous avons encore la leçon de la religion à l'école. Il commence pendant la troisième classe de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. Et on apprend toute l'histoire de la vie de Jésus, les miracles, tout ça, deux fois, pendant l'école primaire, après au gymnase. Et après, il apprend aussi pour les autres religions. Oui, mais ça reste encore.